Donc bonjour, je vais à mon tour vous parler de hausse du niveau de la mer en lien avec le changement climatique. Et en fait, il y a beaucoup de notions, vu que c'était un séminaire grand public, qui ont déjà été évoquées dans les différentes présentations qu'on a eues depuis ce matin. Mais je vais refaire une passe dessus et puis aller un petit peu plus loin. Donc je dois dire qu'en fait, il y a une partie de cette présentation qui est basée sur le dernier rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique. Et je référencerai donc ce rapport par SROC 2019 dans cette présentation. Alors, j'ai organisé cette présentation en trois parties. Donc, tout d'abord, nous allons revoir les causes contemporaines de la hausse du niveau de la mer. Puis, nous verrons quelles ont été les variations passées et futures, ou tout du moins, nous reviendrons dessus. Et puis, enfin, je terminerai avec les risques associés à ces variations du niveau de la mer. Donc, tout d'abord, les causes. Alors, la hausse du niveau de la mer, c'est une réponse directe au changement climatique. C'est quelque chose d'intégrateur et c'est pour ça qu'on l'a vu à travers différentes présentations aujourd'hui. Donc pour comprendre cette hausse, il faut en revenir au changement climatique lui-même et donc à l'effet de serre. Et cet effet de serre, je vais l'illustrer ici en montrant donc avant, donc on est avant le changement climatique ici, là nous avons notre Terre, elle reçoit du rayonnement solaire qui va pénétrer en bonne partie l'atmosphère et arriver jusqu'au sol, réchauffer le sol qui lui, une fois chaud, va se mettre à réémettre vers l'espace un rayonnement qui cette fois est dans l'infrarouge. Oui, mais du coup, on a des gaz à effet de serre qui sont naturellement présents dans l'atmosphère, comme la vapeur d'eau ou même du CO2 d'origine naturelle. Et là, ils ne vont pas laisser passer ces rayonnements sans les stopper, ils vont les piéger en partie, ils vont les absorber et les réémettre en partie vers la Terre. Et ça fait qu'on a un effet de serre naturel qui contribue en fait à rendre notre atmosphère plus chaude, de 33 degrés en l'occurrence, par rapport à si on n'avait pas ces gaz à effet de serre. Le problème, bien sûr, c'est que les activités humaines ont émis davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment du CO2, mais également d'autres gaz, comme on l'a vu ce matin. Et donc, on capte d'autant plus du rayonnement infrarouge émis vers l'espace, et donc on réchauffe de plus en plus la planète. Alors maintenant, ça veut dire qu'on a un excès de chaleur, en fait, dans le système climatique, à cause de cet effet de serre qui est aggravé. Et où cet excès de chaleur est-il stocké? On l'a vu ce matin, il est stocké à plus de 90% dans les océans. Ça veut dire que les océans se réchauffent. Et ils ne se réchauffent pas seulement en surface. Hein. On a un réchauffement qui peut aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur, voire plus. Donc c'est vraiment une énorme quantité de chaleur qui rentre dans les océans. Et comme on l'a vu, quand une eau est chauffée, elle a tendance à occuper un volume plus important parce que sa densité diminue et donc les océans se dilatent. Ensuite, il y a une petite fraction, alors les chiffres peuvent être peut-être un peu revus, mais qui sont de cet excès d'énergie qui sont captés par les glaciers et par les calottes polaires et qui contribuent à leur fonte et donc à ajouter de l'eau qui était précédemment sur les continents sous forme de glace et à ajouter cette eau dans les océans. Et donc, on remplit en quelque sorte les océans, ce qui contribue à la hausse du niveau de la mer là aussi. Donc, il n'y a pas que cette histoire de fonte, hein, comme Gaëlle l'a montré, il y a aussi des histoires d'écoulement de la glace. Donc on a là nos trois usual suspects de la hausse contemporaine du niveau de la mer. L'expansion thermique des océans, qui a été le contributeur majeur, on va dire, sur le XXe siècle, et qui est en fait assez peu limitée, parce que l'océan peut encore emmagasiner de la chaleur, et ça peut continuer très longtemps. Les glaciers de montagne, qui ont un potentiel d'un peu moins de 50 cm s'ils venaient à fondre complètement, pour la hausse du niveau de la mer, et puis les calottes polaires qui ont relativement peu contribué sur le XXe siècle, mais qui, comme on l'a vu, contribuent de plus en plus et ont un potentiel assez gigantesque pour la hausse à venir du niveau de la mer, puisque, comme Gaëlle l'a évoqué, si on fondait tout le Groenland, on ajouterait 7 mètres du niveau de la mer, si on fondait tout l'Antarctique, on serait autour des 60 mètres. Mais en fait, ce qui nous intéresse quand on parle de hausse du niveau de la mer, ce n'est pas ces causes globales et ce niveau de la mer global du niveau de la mer. En termes d'impact, ce qui nous intéresse, c'est le niveau de la mer qu'on va ressentir à la côte, là où on a des populations, là où on a des actifs, des biens économiques, culturels ou autres. Et donc, quand on s'intéresse à cette variation locale du niveau de la mer, alors il y a tout un tas d'autres processus qui sont à prendre en compte et qui sont schématisés sur ce schéma qui vient d'ailleurs du rapport du GIEC. Alors, tout d'abord, on a à l'échelle régionale les circulations océaniques qui vont venir redistribuer la chaleur qui a été emmagasinée dans les océans et la masse, ce qui crée des disparités régionales dans la hausse du niveau de la mer. Et puis ensuite, si on est vraiment à la côte, alors il y a d'autres contributeurs qui contribuent aux événements extrêmes, mais pas que en fait, qui vont aussi contribuer, qui peuvent changer en réponse au changement climatique. Donc parmi eux, on a la marée, on a les surcôtes de tempête, hein, c'est l'effet en fait des basses pressions atmosphériques qui ont tendance à relever le niveau de la mer simplement parce que la pression baisse, donc ça aspire, on va dire, la mer. Et puis le vent qui va pousser des masses d'eau vers les côtes et donc contribuer à la hausse là aussi du niveau de l'eau, et puis les contributions des vagues moyennes qui, en déferlant, en fait, vont faire augmenter par effet moyen le niveau de la mer. Donc ça, c'est un peu des processus physiques qui contribuent aux variations locales du niveau de la mer, mais il y a également des activités humaines, autres que les émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent à la hausse relative du niveau de la mer, et on en a entendu parler avec ces mouvements verticaux du sol. Donc notamment, on a un enfoncement des sols dans plusieurs régions du monde qui sont liées au pompage des nappes phréatiques, par exemple, ou alors des hydrocarbures. Et en pompant ces liquides qui sont en souterrain, on a un compactage des sédiments et donc un sol qui s'affaisse. Et bien sûr, si vous êtes à la côte et que le sol s'affaisse, même si le niveau de la mer reste constant, vous avez l'impression qu'il monte en fait. Et ce n'est pas vraiment important de savoir qui fait quoi, ce qui compte c'est de voir si le niveau de la mer pour vous il augmente ou pas. Donc maintenant, on va essayer de quantifier un peu tout ça et de regarder les variations passées et futures du niveau de la mer. Alors là, c'est une animation. Je ne sais pas si on peut lancer le film. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que pour la période contemporaine, on a mesuré directement le niveau de la mer à partir des satellites, donc l'altimétrie spatiale, et des marégraphes. Et donc, je vais évoquer un petit peu les deux. Et si le film fonctionnait, mais ce n'est pas grave parce qu'on le voit déjà ici, on voit que grâce à ces mesures satellites, on a pu observer la vitesse de hausse du niveau de la mer, donc depuis 1993, et voir qu'en fait, cette hausse, elle n'est absolument pas uniforme. Le niveau de la mer ne monte pas partout de la même façon. Et ça, c'est lié notamment aux circulations océaniques. Mais si on s'intéresse à différents endroits et aux observations du niveau de la mer direct par marégraphe, on voit qu'il y a différents processus qui sont responsables et qui dominent selon les régions pour expliquer ces variations locales du niveau de la mer. Donc j'ai repris ici quelques séries temporelles, donc c'est-à-dire qu'on a les variations du niveau de la mer ici selon la verticale en fonction du temps, des années, et on a un décalage arbitraire entre chaque série temporelle tout simplement pour que vous puissiez les distinguer les unes des autres, mais à chaque fois entre deux lignes horizontales on a 20 cm. De variation. Et donc on a pris plusieurs localités. Donc tout d'abord, Grand Island aux États-Unis, on voit qu'on a une hausse du niveau de la mer depuis les années 30 qui a été par moments rapide, plus rapide que la moyenne globale que j'ai essayé de représenter ici. Cette hausse du niveau de la mer ici est liée en partie à une subsidence naturelle du sol qui est liée au compactage naturel des sédiments dans cette plaine deltaïque. Maintenant si on regarde Sydney ici, on voit qu'on a une hausse graduelle du niveau de la mer, peut-être un petit peu moins que la moyenne globale. Si on regarde Nezugasaki au Japon, on voit que là, on a la même chose, une hausse graduelle, mais d'un seul coup, un changement abrupt. Et bien ça, c'est lié à un séisme qui s'est passé là-bas et qui a brutalement enfoncé le sol, ce qui donne une impression, pour le marégraphe qui est ancré sur le sol, de voir le niveau de la mer augmenter, tout simplement parce qu'il s'est enfoncé. Ensuite, si on regarde, je vais passer directement à Bangkok, en Thaïlande. Alors là, on voit une hausse vraiment très rapide depuis les années 60 du niveau de la mer. Et là, c'est lié encore une fois à un enfoncement des sols, à une subsidence, et cette fois qui est d'origine anthropique, puisque c'est lié au pompage des eaux souterraines après les années 1960 dans cette région, pour alimenter les personnes en eau, mais également pour irriguer les cultures. Si on regarde maintenant Helsinki en Finlande, on voit une baisse graduelle du niveau de la mer, et ça c'est lié à l'élévation des terres en réponse au rebond, lié au rebond post-glaciaire comme ça a été présenté juste avant, et cette élévation des terres est plus rapide que la hausse du niveau de la mer, donc on a une impression de diminution du niveau de la mer. Donc j'avais représenté ici justement cet effet de rebond post-glaciaire, mais je pense que maintenant vous avez compris que la Terre remonte justement en réponse à cette perte de masse de la calotte polaire qui existait lors du dernier âge glaciaire. Et pour New York, on a là aussi une élévation du niveau de la mer, parce que New York en fait était placé un petit peu à cet endroit-là, et donc subit lui une subsidence en réponse à la dernière déglaciation. Alors maintenant, si on moyenne toutes ces mesures prises par les marégraphes depuis les années 1900 et puis par les satellites depuis 1993, on obtient cette représentation de l'évolution en moyenne globale du niveau de la mer sur le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors ce que l'on voit, c'est que la hausse du niveau de la mer est rapide et qu'elle accélère. On peut le voir si on regarde les différentes vitesses de hausse du niveau de la mer sur différentes périodes. Plus on se rapproche des temps présents, plus ça va vite. Alors, depuis 1900, on va dire qu'on a gagné 18 cm de hausse du niveau de la mer, dont 8 cm depuis 1993. Et le taux de hausse du niveau de la mer depuis les années 93 est de 3,2 mm par an. Alors, ça peut paraître peu tout ça, en fait, 3 mm par an. Quand on regarde la profondeur de l'océan, la masse que ça représente, et puis 18 cm, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est peu? En fait, c'est pas vraiment peu, et on a pu en avoir une idée précédemment. Si on regarde, si on prend un peu de distance là aussi, quand on va regarder dans le passé pour mettre un peu dans le contexte ces hausses du niveau de la mer, si on regarde sur les deux derniers millénaires, on voit que jusqu'à la fin du 19e siècle, donc avant l'industrialisation, la hausse du niveau de la mer n'a pas excédé 0,5 mm par an. On est à 3 mm par an actuellement. Si on regarde plus loin dans le passé, donc au cours des 20 000 dernières années, on voit que oui, comme l'a montré Gaëlle, il y a eu des périodes où la hausse du niveau de la mer a été plus rapide, où on a pris notamment, c'était une vingtaine de mètres en quelques siècles, 400 ans, 500 ans, on ne sait pas encore avec précision. Oui, mais c'est arrivé dans des conditions qui étaient différentes. C'est lié à la désintégration de cette énorme calotte polaire que l'on avait à l'époque, que l'on n'a pas aujourd'hui. Donc la hausse du niveau de la mer, mise en contexte aujourd'hui, est quand même justement quelque chose d'assez inhabituel. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est de combien le niveau de la mer va-t-il monter? Et pour répondre à cette question, comme vous l'aurez compris, comme le niveau de la mer, c'est une réponse au changement climatique, il faut savoir combien nous allons émettre de gaz à effet de serre. Donc pour le futur, pour les projections de niveau de la mer, on a donc besoin de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, et on va en considérer deux ici. Donc le scénario RCP 2.6 en bleu ici, qui est un scénario de faible émission. Vous voyez même qu'on arrive à la neutralité, à des émissions même négatives à la fin du siècle. Donc ça fait face à une politique ambitieuse de réduction des émissions, à peu près en accord avec les accords de Paris, et des émissions strictement contrôlées. On prend également un autre scénario qui est le rouge ici, le RCP 8.5. Ce sont de fortes émissions. On n'a pas de restrictions supplémentaires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros, on continue sur le chemin actuel. En termes de hausse de température à la surface de la planète, dans un cas, si on réduit nos émissions, on arrive à stabiliser la température à la fin du siècle. Dans l'autre cas, où on a de fortes émissions, on va continuer à faire grimper la température sur la planète jusqu'à plus de 5 degrés. En termes de niveau de la mer, ça ne se passe pas de la même façon. Même si on arrive à stabiliser la température de surface de la Terre, même si on diminue de façon drastique nos émissions, la hausse du niveau de la mer va se poursuivre, et c'est ce que l'on voit ici sur cette courbe bleue qui nous amène jusqu'en 2100. Ce qu'on va réussir à stabiliser, par contre, c'est la vitesse de la hausse du niveau de la mer. Dans le cadre où on continue d'émettre comme nous le faisons aujourd'hui et on a une hausse de plus en plus importante de la température, alors le niveau de la mer va continuer à accélérer. Donc maintenant, en termes de hausse, ça veut dire qu'on aurait en valeur la plus probable pour le scénario de faibles émissions, d'ici à 2100, 43 cm de hausse. Pour le scénario de forte émission, la valeur la plus probable est de 84 cm, mais on peut avoir jusqu'à plus d'un mètre 10 de hausse du niveau de la mer sur ce scénario de forte émission. Et ça veut dire, avec la représentation que l'on a ici, qui est une représentation probabiliste, que l'on a même en fait 17% de chance que la hausse, ou de risque plutôt, que la hausse du niveau de la mer soit supérieure à 1,10 m en 2100. Et ça, c'est lié à des processus d'instabilité, notamment des calottes polaires évoquées par Gaëlle, qui ne sont pas tous pris en compte aujourd'hui dans les projections du niveau de la mer. Ce que l'on voit aussi, c'est que la hausse est de plus en plus rapide sur ce scénario de forte émission. On continue à accélérer et on aurait des taux. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on est à un peu plus de 3 mm par an. À la fin du 21e siècle, on pourrait atteindre 10-20 mm par an de hausse du niveau de la mer. Et ça, c'est important pour l'adaptation, parce que ça veut dire que ça nous laisse de moins en moins de temps pour nous adapter. Donc imaginons qu'aujourd'hui, on construise une protection qui nous protège de 50 cm de hausse supplémentaire du niveau de la mer. Il va falloir, rien qu'au niveau moyen de la mer, on va dire 60 ans pour que cette hausse de 50 cm soit atteinte. Si à ce moment-là, on se remet à construire une nouvelle protection, 50 cm plus haute, eh bien en fait, elle ne nous protégera plus que 30 ans, puisqu'on a une accélération de cette hausse. Donc comme on l'a vu, cette hausse du niveau de la mer, elle ne va pas s'arrêter, hein, même si on limite fortement nos émissions de gaz à effet de serre, elle va se poursuivre sur des siècles, même des millénaires, et on atteindrait donc même dans le cas de stabilisation de température à 2 degrés, 1 mètre de hausse du niveau de la mer en 2300. Et si on regarde à encore plus long terme, sur plusieurs millénaires, on voit qu'effectivement, sous la période appelée anthropocène, une hausse vraiment importante de plusieurs dizaines de mètres potentiellement du niveau de la mer, ce qui implique un changement drastique, bien sûr, des calottes polaires pour arriver à ces niveaux-là. Alors, je reviens en cours, je reviens au XXIe siècle et je vais vous montrer à présent la répartition régionale de cette hausse du niveau de la mer. Elle n'était pas uniforme, on l'a vu avec ces différents marégraphes, on l'a vu un petit peu avec l'altimétrie. Elle continuera, la hausse du niveau de la mer, à être non uniforme au cours du XXIe siècle. Et on voit que si on se place donc au milieu du XXIe siècle à peu près, selon le scénario d'émission, qu'il soit de faible émission ou de forte émission, on a relativement peu de différence entre ces deux scénarios. Par contre, si on se place à la fin du siècle, à cause de cette accélération, si on continue à émettre autant d'émissions, on a des différences qui deviennent vraiment importantes, ce qui devrait vous convaincre de l'importance de réduire les émissions, d'atténuer le changement climatique. On aura une hausse qui commence à diverger vraiment du niveau de la mer selon les scénarios d'émissions que l'on mettra en place. Donc maintenant, les risques associés. Alors, les risques associés à la hausse du niveau de la mer, je pense que vous les avez à peu près en tête. Il s'agit bien sûr des inondations côtières, de la submersion permanente, donc les terres sont complètement immergées, de l'érosion côtière, de l'intrusion d'eau salée dans les eaux de surface et de sous-sol. Ça a des conséquences pour l'accès en eau douce, pour notre alimentation et puis pour la culture. Des difficultés de drainage et des changements et dégradations d'écosystèmes côtiers, comme on a pu le voir un petit peu ce matin. Mais ce risque, il n'est pas seulement lié à l'aléa étant les variations du niveau de la mer, la hausse du niveau de la mer. Il faut également, pour avoir un risque, qu'il y ait une vulnérabilité des sociétés et puis une exposition. Pour qu'on ait un impact, il faut qu'il y ait des gens ou des infrastructures qui soient impactées. Donc si on reprend notre carte de projection du niveau de la mer en 2100 sous un scénario de forte émission, on voit ici les zones à risque. Et qu'est-ce qu'on a comme zone à risque? On a les petits états insulaires en développement. On a les mégalopoles qui sont bien souvent situées le long des côtes. On a les zones de delta, les îles basses, et puis les zones de faible élévation côtière, c'est-à-dire situées à moins de 10 mètres du niveau de la mer en altitude. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de ces zones à risque qui sont situées en fait, dans la zone tropicale notamment. Ce n'est pas forcément ces pays-là qui ont émis les gaz à effet de serre qui sont responsables de la hausse du niveau de la mer que l'on voit sur cette période-là. Et puis, il y a des effets pervers, j'en ai pas vraiment parlé, mais quand on perd de la masse sur les calottes Groenland ou Antarctique, en fait, il y a une redistribution de cette masse dans les océans qui fait que le niveau de la mer, au final, il monte où? Il monte principalement plus vite dans les tropiques, en tout cas, que dans les zones qui sont proches de la perte de masse à cause d'effets de changement de gravité. Donc ces histoires en fait également de risques et de vulnérabilité des populations font qu'en fait pour un niveau donné, disons celui-ci, de hausse du niveau de la mer à la fin du siècle, eh bien selon où vous êtes sur le globe, pour un même niveau de hausse du niveau de la mer, vous n'avez pas le même risque qui est représenté ici selon les couleurs. Par exemple, si on prend les villes côtières riches, si on est sur un scénario de forte émission, on voit que par rapport aux atolls urbains ici, on a un risque bien plus élevé pour les atolls urbains que pour les villes côtières. On voit aussi qu'en changeant nos émissions, on arrive largement à diminuer ce risque dans bien des cas. Donc si on arrive à changer ses émissions, mais également à s'adapter. Là, on voit la barre à chaque fois avec le grand R représente le risque associé si on met en place à son plein potentiel, je ne sais pas si ça se dit, les politiques d'adaptation possibles selon les endroits, on arrive à vraiment réduire ce risque encore. Donc si on change nos émissions et qu'en plus on s'adapte, on arrive à réduire le risque dans bien des endroits. Donc maintenant, quand on pense aux risques associés au niveau de la mer, on pense également souvent aux événements extrêmes. Ces événements extrêmes, on les représente, on les exprime souvent en termes de leur période de retour moyenne. Un événement qui a tendance en moyenne à n'arriver que tous les 100 ans parce que le niveau est tellement haut qu'il n'est atteint en moyenne que tous les 100 ans. Eh bien, à cause de la hausse, je ne parle pas de changement d'extrême en eux-mêmes, je parle juste ici de l'effet de la hausse moyenne long terme du niveau de la mer dont j'ai parlé jusqu'à présent. Eh bien, juste parce que ce niveau moyen de la mer sur lequel viennent se superposer les autres processus responsables des extrêmes, juste parce que cette hausse du niveau de la mer intervient, les événements, les niveaux d'eau maximaux atteints vont être atteints de plus en plus fréquemment. C'est-à-dire qu'avant, il fallait ce niveau d'eau, ici, extrême, ne pouvait être atteint qu'une fois tous les siècles. Eh bien, dans le futur, il pourrait être atteint, par exemple, une fois tous les ans. Et si on regarde un peu plus précisément, quand est-ce que ça va arriver? Donc, l'année à laquelle les niveaux d'eau extrêmes qui étaient atteints avant, dans le passé récent, tous les 100 ans, vont arriver tous les ans dans le futur. On voit, selon nos deux scénarios d'émission, fort émission ici, que pour les zones en noir, donc notamment dans les tropiques, c'est déjà le cas. Pour les zones en couleur, ce sera au cours du XXIe siècle, et puis pour les zones blanches, ce sera après le XXIe siècle. Donc on voit vraiment un fort impact ici de la hausse moyenne, même du niveau de la mer sur les extrêmes. Donc maintenant, on peut s'adapter, comme j'en ai rapidement parlé après, juste avant, pour essayer de réduire les risques associés à la hausse du niveau de la mer. Et on a différentes approches possibles avec différents avantages et inconvénients. Donc parmi les différentes approches possibles, il y a celle de ne pas s'adapter. Ce n'est pas vraiment une technique d'adaptation. Ensuite, on a la protection, donc la construction de digues, de murs de front de mer ou de choses comme ça. Donc ici, je donne un exemple, c'est la barrière de la Tamise qui est mise en place pour protéger Londres. On a des adaptations des infrastructures ou de nos pratiques. Donc on peut surélever les bâtiments, utiliser des récoltes, des systèmes d'agriculture dont les espèces sont résistantes à l'intrusion d'eau salée, par exemple. On peut même avancer sur la mer comme le font les Pays-Bas. On peut reculer à l'intérieur des terres, si peu que ce soit une technique d'adaptation là aussi. Et puis on peut utiliser des écosystèmes qui peuvent nous protéger aussi des aléas. On peut également, et ça c'est important, peut-être utiliser une combinaison d'approches d'adaptation et puis les faire évoluer aussi dans le temps. Il faut à chaque fois une évaluation locale pour voir quelle technique d'adaptation sera la plus adaptée justement à la zone où nous sommes et puis faire évoluer éventuellement ces choix avec le temps. Donc si on regarde ici, on peut s'adapter, mais est-ce que c'est économiquement intéressant ? Donc il y a des chercheurs qui ont regardé ça et qui ont pris en compte ici seulement des protections en dur et qui ont regardé seulement l'effet des pertes matérielles associées à la hausse du niveau de la mer. Ils ont regardé différents scénarios de hausse du niveau de la mer allant de 30 cm à 2 mètres d'ici à 2100, différents scénarios démographiques, et ils ont regardé pour tous ces scénarios le rapport bénéfice sur coût. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser de l'argent pour se protéger ou bien payer le coût des dégâts occasionnés par la hausse du niveau de la mer. Et on voit qu'en fait, quand on est dans le vert, donc c'est le cas pas mal en Europe, il est économiquement robuste de se protéger. Et ça, c'est le cas de 13% des côtes dans le monde, mais par contre, ça correspond en fait à 90% de la population mondiale habitant dans des plaines inondables et à 96% des actifs. Et puis dans bien d'autres cas, 65% des côtes ici en jaune, il n'est pas robuste de se protéger avec cette technique d'adaptation. Et ça ne représente par contre que 0,2% de la population et des actifs. Donc on voit là que les techniques d'adaptation, encore une fois, peuvent dépendre vraiment de la localisation. Et pour les zones peu habitées, bien une technique peut être les écosystèmes ou bien même le recul si on a l'espace suffisant. Donc pour conclure, le changement climatique qui est induit aujourd'hui par nos émissions de gaz à effet de serre a une empreinte majeure sur les systèmes dont nous dépendons, du sommet des montagnes avec la fonte des glaciers au fond de l'océan avec un océan qui se réchauffe y compris en profondeur et induisent donc une hausse du niveau de la mer. Cette hausse du niveau de la mer, elle a des causes globales, mais elle varie régionalement, notamment en lien avec les circulations océaniques, la redistribution de masse, et localement, notamment aussi à cause d'interventions humaines directes comme le pompage des nappes phréatiques ou la construction de bâtiments qui ont tendance à faire affaisser les sols aussi. La hausse du niveau de la mer, c'est en gros 20 cm depuis 1900, elle accélère. On pourrait atteindre de 40 à plus de 80 cm d'ici à 2100 selon le scénario d'émissions de gaz à effet de serre que l'on suivra, donc selon nos choix, et plusieurs mètres dans les prochains millénaires. Les niveaux extrêmes du niveau de la mer vont être atteints de plus en plus fréquemment, et ce, ne serait-ce qu'à cause de la hausse graduelle du niveau de la mer. Et on a plusieurs options d'adaptation qui sont possibles, et on peut avoir des chemins d'adaptation. Et là, il faut avoir en tête que souvent, on a tendance à être réactif dans notre adaptation et dans notre protection, et il serait bien peut-être d'être proactif, à ne pas attendre les dégâts, mais plutôt essayer de s'en protéger et d'anticiper. Et plus nous agirons tôt, plus nous serons en mesure de faire face aux changements inévitables qui vont être induits par le changement climatique, de gérer les risques, d'améliorer nos vies et d'assurer la soutenabilité des écosystèmes et des populations du monde entier, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain. Et je vous remercie.